Le psalmiste, psaume 98, n'hésite pas à annoncer que l'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations jusqu'aux extrémités de la terre. Le prophète Ésaïe, chapitre 52, nous parle de celui qui apporte de bonnes nouvelles, qui publie la paix, qui publie le salut et qui confirme que Dieu règne. Paul, dans le début de l'Épître aux Hébreux, confirme que Dieu nous parle du Fils, qui est également à l'origine de toutes choses, et que ce Fils a fait la purification des péchés. Le projet de Dieu pour l'humanité, dès son origine, la création, à son aboutissement, c'est le salut pour tous les humains, appelés à vivre dans son royaume. La naissance de Jésus, le Fils de Dieu, qui se dépouille de sa divinité pour nous rejoindre dans notre humanité, reste l'événement essentiel du projet de Dieu. Ce matin, nous lirons, une fois de plus, le récit de Luc 2, versets 1 à 19. Vous le connaissez par cœur, je vous le dis quand même. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers, Eliasim par exemple, qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et Eliasim, c'est pas dans le texte, hein, j'ai rajouté. Et voici un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il agrée. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem. » Le petit âne, il s'est dit la même chose. C'est encore pas dans le texte non plus. Et voyons ce qui est arrivé. Ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte. Et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couchés dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et lu et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Je vous propose ce matin trois thèmes de réflexion autour de cet événement. Premièrement, quelques rappels autour du récit de la naissance de Jésus, sans quoi nous ne serions pas rassemblés ici ce matin. La commémoration de la naissance du Christ et la fête de Noël. Et après, autour du récit de la nativité, ce que l'on oublie, qu'on passe trop vite, ce qu'on ne veut pas comprendre. Je laisse le suspense. Donc, premier point, la naissance de Jésus est annoncée par les prophètes et les psalmistes. Le peuple d'Israël, descendant d'Abraham, choisi par Dieu, devait être une nation exemplaire pour être l'élément, le canal pour que Dieu puisse bénir toutes les nations de la terre. Pour cela, ils ont vécu la libération de l'esclavage en Égypte, la traversée du désert, ils ont reçu la loi de Moïse, ils se sont installés en terre promise au contact d'autres nations, d'autres religions, d'autres dieux que le Dieu de la création. Les humains, étant ce qu'ils sont, depuis qu'ils se sont révoltés contre leur Créateur, on peut dire que le projet de Dieu pour l'humanité n'allait pas dans la bonne direction, y compris sous le règne du roi David et de son fils Salomon. Mais Dieu aide les hommes et son projet de restauration de tout ce qui est mal parti après l'événement dit de la chute doit aboutir. Les prophètes annoncent la rédemption, le Rédempteur, le Messie, le Fils du Père qui doit rejoindre les hommes. Ésaïe, en son temps, donne des indications précises. Le Fils de Dieu naîtra à Bethléem et il sera descendant du roi David. Il viendra pour régner et sera l'intermédiaire qui permettra à chaque humain une réconciliation avec Dieu le Père. L'événement arrive et c'est Luc qui donne des détails pour l'histoire. Les Romains occupent la Palestine, c'est César Auguste qui ordonne le recensement, et le territoire est administré par un gouverneur qu'on appelle Quirinus. Matthieu est plus succinct. Il insiste sur la généalogie de Jésus depuis Abraham. Il précise que, localement, Hérode était roi de Judée et que, rapidement, il s'est senti menacé dans son pouvoir par la naissance du petit enfant. Marc ne parle pas de la naissance de Jésus. Et Jean introduit son évangile en insistant sur la parole de Dieu, la vie et la lumière qui luit dans les ténèbres. Cette parole de Dieu qui a été faite chair pour habiter parmi nous, pleine de grâce et de vérité. L'événement de la naissance de Jésus est ancré dans l'histoire, annoncé par les prophètes, pleine de mystères autour de sa conception et dans un contexte socioculturel et géopolitique tout à fait particulier il y a plus de 2000 ans. Nous arrivons à notre deuxième acte, la fête de Noël. Et aujourd'hui, le 25 décembre 2022, une fois de plus, nous fêtons Noël ici à Darnay, en France, dans l'hémisphère nord, en Occident christianisé. Ouf. Contrairement à ce que le bruit médiatico-politique ambiant essaye de nous faire croire, tout le monde ne fête pas Noël en ce jour de notre calendrier. Mardi 20 décembre, donc cette semaine, Rachel et moi étions à Strasbourg. Évidemment, pour le fameux marché de Noël, qui existe depuis plus de 400 ans. Nous avions rendez-vous avec Faizé, au pied du sapin de la place Kléber, vers 15h, et nous avons passé la soirée chez eux autour d'un repas de fête. Faizé et Chariard, tout le monde se rappelle? Ce sont des Iraniens qui ont assisté au culte chez nous pendant deux ans et demi au moins, et qui sont allés à Strasbourg pour faire des études. Donc Faizé a repris des études de chimie, donc elle est en licence, en année de licence de chimie. Elle était en train de passer des examens, là c'était les vacances, et ça recommence des examens à la rentrée. Elle dit que ça se passe plus ou moins bien, c'est quand même difficile pour elle parce qu'elle avait oublié un petit peu la chimie qu'elle avait appris avant et puis elle reprend déjà en troisième année de licence, donc il faut se mettre dans le bain. Par contre, elle a passé son code de la route et elle l'a réussi, la deuxième fois. Il n'y a plus qu'à prendre des leçons de conduite pour passer le permis, ça c'est pas gagné. Chariard est complètement pris dans sa thèse, il travaille quasi jour et nuit, d'après lui, parce qu'au niveau du labo, tout le monde ne veut pas travailler comme lui, et puis les Français ne sont pas motivés, alors lui il est motivé, et il a trouvé quelque chose, donc c'est très bien pour lui, parce qu'il a trouvé quelque chose. Il fait des recherches sur la résistance aux antibiotiques, et donc là il va pouvoir avoir un élément pour sa thèse qui sera présenté d'ici la fin de l'année, qui est en bonne voie. Ils partaient visiter de la famille en Allemagne avec leur tante qui vient du Pays de Galles, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait de déplacement chez nous. On ferme la parenthèse. Donc nous avons passé la soirée chez eux autour d'un repas de fête. Chariard et Faizé nous ont expliqué que le 20 décembre était jour de fête en Iran. Cette fête s'appelle Yalda et marque le passage de la période de l'année où les jours raccourcissent vers la période où les jours rallongent. C'est exactement le jour de la plus longue nuit de l'année. Au menu, riz au safran, riz avec fèves et herbes, olives aux noix, boulettes de viande et agneaux mijotés. Bon appétit. Pour la soirée, il y a eu lecture de poèmes en perse et consommation de grenades et de pastèques. Enfin, la pastèque, il n'y en avait pas, c'était dans six années chez nous. Donc on a fait la croix sur la pastèque. Rien à voir avec Noël. Quoique. Les chrétiens au 1er siècle, les églises fondées à Jérusalem et dans les pays méditerranéens ne font pas de récits de dates et de fêtes de Noël. De toute façon, pour eux, le retour du Christ après sa mort, sa résurrection et son ascension était imminent. Il allait revenir tout de suite, il n'y avait pas besoin de passer une génération. C'était assez clair dans la Bible. À ce jour, nous attendons encore ce retour. Petit à petit, l'Église a mis en place un calendrier de commémoration pour entretenir et transmettre la connaissance de Dieu, de son œuvre pour l'humanité. Noël, Pâques, Pentecôte, Ascension, au rythme des saisons, pour marquer des temps d'arrêt dans la frénésie de notre vie quotidienne. Certainement une bonne chose pour notre équilibre mental. Au IVe siècle, avant que l'empereur Constantin ne décide de devenir lui-même chrétien, les chrétiens étaient persécutés, et après cet événement, la conversion de Constantin, c'est les non-chrétiens qui étaient malmenés et brûlés pour l'exemple. À cette époque, comme les Iraniens encore aujourd'hui, il existait des périodes de fêtes autour de cet événement saisonnier récurrent, avec des jours qui raccourcissent et augmentent les ténèbres vers une période de jours plus longs où la lumière du soleil devient plus généreuse. Plus on va vers le nord, plus l'événement est commémoré de façon significative. Chez les Vikings, cette fête s'appelait Yule. C'est un peu comme Yalda, mais c'est Yule. C'est bizarre. Dans nos contrées, sous influence romaine, c'est la période des fêtes liées au dieu Saturnin. Les Saturnales qui durent du 17 au 23 décembre. Devenu chrétien par la volonté de l'empereur Constantin, les rites païens idolâtres devaient disparaître pour laisser place à la pratique de la religion chrétienne. Pour marquer la rupture entre le culte païen et le culte chrétien, l'Église a décidé de supprimer les fêtes païennes liées au solstice et de remplacer par la fête commémorative de la naissance de Jésus un peu plus tard, décalée dans le temps, le 25 décembre. Donc il n'y avait pas de fête entre le 17 et le 23, mais on faisait la fête le 25. C'était la décision de l'Église chrétienne liée à Rome. Pour les chrétiens d'Orient, ce n'est pas la même date. Ils fêtent la nativité le 6-7 janvier. Aujourd'hui en Ukraine, en guerre, ceux qui souhaitent que l'Ukraine soit démocratique, rattachée à l'Occident, fêtent Noël aujourd'hui. Ceux qui pensent que l'Ukraine devrait rester sous influence russe fêteront Noël le 6 janvier. Le choix de la date de la fête de Noël est un choix politique et l'actualité en France nous le confirme. Il faudrait qu'on reporte l'annonce du projet de réforme des retraites pour ne pas être le sujet principal autour de la table et au partage de la l'indomarron. Enfin, c'est ce qu'on dit. Quel mélange! Cette fête de Noël actuelle a gardé et adapté beaucoup de symboles liés à des pratiques païennes. Oui. Des coutumes anciennes, les lumières, les bougies, le sapin, les couronnes, la bûche, etc. Dans certaines périodes de l'histoire, le retour à un christianisme plus authentique a prôné la suppression de la fête de Noël. Hop, plus Noël. C'est pas si loin que ça, hein. Les calvinistes à Genève, les puritains en Grande-Bretagne, par exemple. La Révolution française a essayé de chercher à supprimer la fête de Noël. Il paraît que c'est à ce moment-là que les grandes crèches vivantes qui étaient installées dans les églises au moment de Noël avec des personnages se sont miniaturisées pour que les crèches rentrent dans les familles et qu'on continue de faire une commémoration de Noël dans le milieu familial. Alors qu'en public, c'était interdit par la nouvelle révolution. Aujourd'hui, la pression médiatique, politique, voudrait garder la fête de Noël avec sa frénésie de consommation, les ripailles et beuveries autour de la vente familiale, en excluant la commémoration de la naissance de Christ et en réhabilitant même les fêtes païennes du solstice. Heureusement que nous n'en sommes pas encore là. Nous arrivons à notre troisième point. Dans le récit biblique de la nativité, qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qu'on passe trop vite et qu'on ne veut pas comprendre? Parole à la salle. Le côté surnaturel. L'ange et la multitude céleste, gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qu'il a agréés ou qu'il aime. Le commentaire du verset dans la Bible de M. MacArthur, il balaye ça d'un revers de main. Il ne s'agit pas d'une déclaration universelle de paix envers l'humanité dans son ensemble. C'est ce qu'ils disent les anges. Paix pour tout le monde, quoi. Lui, il dit non, il n'y a pas de paix sur terre, on va continuer de faire la guerre. Donc, M. MacArthur, beau mais beau. L'ange annonce une bonne nouvelle. La naissance attendue d'un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Une bonne nouvelle pour tout le peuple. L'annonce est amplifiée par le chant des anges. Gloire à Dieu dans les cieux. Il aime les humains. Il veut la paix sur la terre. La paix qui n'a rien à voir avec la Pax Romana, la paix romaine, qui était d'actualité locale lors de la naissance de Jésus. Cette paix imposée à l'intérieur des territoires occupés par l'armée romaine, avec un contrôle des populations, une répression violente de toute tentative de remise en cause de l'autorité de l'empereur. D'un contrôle également des pratiques religieuses, et l'obligation de reconnaître en la personne de l'empereur un nouveau dieu. Cette paix romaine n'était certainement pas celle annoncée par la multitude céleste. L'intervention des anges est surnaturelle, elle nous dépasse. L'annonce à Zacharie dans l'intimité pour la naissance de Jean-Baptiste, l'annonce à Marie et à Joseph également dans l'intimité pour la naissance de Jésus, précède l'annonce de la paix sur la terre pour la multitude, de l'armée céleste pour tous les habitants de la terre. Dieu agit. Il réaffirme avec force et autorité que son projet est un projet de paix pour la terre. Une paix globale qui n'est pas seulement une absence de guerre. Une paix globale qui n'est pas seulement une absence de guerre, je crois. Une absence de guerre ou de conflit, une paix dans un contexte de partage de ressources, de prospérité, de relations interhumaines apaisées, d'absence de violence et d'emprise de certaines personnes sur d'autres. À côté de ma Bible commentée par M. MacArthur, j'ai également un Nouveau Testament commenté par Antoine Louis. À propos de cette annonce par les anges, il écrit « Cela fait 2000 ans que les anges ont parlé et la paix n'a pas beaucoup progressé. La paix dont il est question ici est d'abord la paix avec Dieu. Mais il écrit également « Nous sommes invités à devenir des artisans de paix autour de nous. S'il n'y a pas de paix sur notre terre, c'est que nous n'avons pas prêté suffisamment attention à la déclaration de paix des anges. » Trop vite passé à la visite de l'étable, trop vite passé au cadeau de la naissance de Jésus, de son dépouillement, de l'adoration des bergers et des mages. Pour conclure, Jésus n'est pas resté ce petit enfant dans la crèche de l'étable de Bethléem. Son message, son enseignement, son action nous aident à comprendre le projet de Dieu pour l'humanité. La loi de Moïse était la référence pour l'action de Jésus. Sa relation directe avec le Père lui a permis de nous expliquer la paix sur terre. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui sont dans la précarité, partagez vos richesses, prenez soin de tout cœur, prenez soin de tous ceux qui traversent des épreuves dans leur vie, les veuves, les orphelins, les étrangers qui vivent parmi nous. Pour Chariar, le monde devrait évoluer vers une suppression des frontières, une mise en commun et un partage des ressources, énergie et nourriture, il y en a assez pour tout le monde, pour que chacun puisse vivre en paix. La paix sur terre, annoncée par les anges lors de la naissance de Jésus, est le projet de Dieu, et un jour, la terre sera restaurée, le projet deviendra réalité. Amen.